Pourquoi avoir envie de la vie? C'est la question qu'un gastro-entérologue, ancien chef de service à l'Hôtel Dieu, a voulu un jour poser lors d'un vaste sondage dans la rue, après avoir mené la même enquête sur les motifs déclarés des gens de ne pas se droguer ou de ne pas boire. Les drogues et l'alcool étant des problématiques qu'il avait souvent rencontrées et qu'il voulait comprendre pour une meilleure prévention. Comme le suicide. Le professeur François Besançon nous dit quelle réponse il a obtenue globalement sur les raisons de vivre déclarées importantes.
Il y a au moins quelqu'un qui tient à moi et j'aime au moins quelqu'un. Autrement dit, le lien affectif, le lien avec les proches, et ça, il y a au moins quelqu'un qui tient à moi, ça peut être aussi quelqu'un qui est au-dedans de moi. Ça n'a pas été explicité quand nous avons préparé la question dans le groupe, ça n'a pas été explicité davantage quand nous avons fait le questionnaire dans la rue, mais peut-être, dans le fond du cœur de ceux qui m'ont répondu « il y a au moins quelqu'un qui tient à moi », ce quelqu'un peut être celui qui est présent au-dedans de nous-mêmes, c'est-à-dire le Saint-Esprit.
Alors justement, vous me tendez une perche. Est-ce que le fait de croire la foi aide à ne pas se suicider ou aide à vivre?
Moi, je le pense. Il y a naturellement des quantités de croyants qui se sont suicidés. Il y a des quantités de suicidaires qui prient ou qui ont prié, de même qu'il y a des quantités d'alcoolo-dépendants qui prient. Et il faut donc se garder de réprouver ces gens qui sont infiniment malheureux. Mais il me semble que donc savoir qu'il y a quelqu'un au-dedans de moi qui tient à moi, ça nous renvoie à un superbe verset d'Isaïe, « Seigneur, tu as de la valeur à mes yeux, je t'ai mis au large ». Et je dois dire que les psaumes sont une langue qui est très loin de la nôtre, mais dans beaucoup de psaumes, on trouve des pépites qui correspondent aux situations de désespoir qu'ont eu les Juifs. Les psaumes du désespoir existent, ils expriment un désespoir, les ennemis de toutes parts, aucune issue. Et pourtant, j'ai mis mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole, c'est répété tout au long des psaumes. Je dois dire que nous aurions vraiment un effort à faire pour actualiser, en quelque sorte, dans un langage qui soit le nôtre, ces pépites, parce que le désespéré qui a l'idée que c'est dans le Seigneur qu'il met son espoir, c'est quelque chose qui était au moins puissant aux yeux du psalmiste lui-même et que des générations de chrétiens ont récité. Et puis, on peut prendre encore la question d'une autre manière, et ça se ramène à ce que j'ai trouvé dans la rue. J'aime au moins quelqu'un, il y a au moins quelqu'un qui tient à moi. Je dirais que Dieu est relation, et que ce que nous avons à réussir, notre vocation, la première ici-bas, c'est notre vie de relation. Notre vie de relation avec tout le temps des échecs, parce que nous nous y prenons mal, que nous disons quelque chose en voulant bien faire et que c'est mal interprété, et ainsi de suite. Nous marchons d'échec en échec et de réussite et réussite dans notre vie de relation, sans attendre le paradis. Il me semble qu'il revient à chaque chrétien de se débattre pour remettre debout sa vie de relation, parce que Dieu est relation. Vous voyez, c'est pour moi, c'est le mobile le plus puissant. Alors, on peut s'exprimer dans d'autres termes qui soient mieux compris actuellement. Par exemple, vivre dans la confiance. L'objectif de vivre dans la confiance est un objectif de vie pour tout le monde, par lequel on commence quand on est enfant, et qui oblige à mériter la confiance quand on est en âge de mériter la confiance. Cet objectif de vivre dans la confiance est un sens à la vie, si vous voulez, quelque chose de très puissant quand on déblaye, quand on dégage cet axe.
Vous mettez l'accent donc sur le lien social et surtout au sein de la famille. Vous parlez de l'espérance en Dieu qui serait quelque part dissuasive d'une tentative ou d'une envie de mettre fin à ses jours. Est-ce que cette espérance en Dieu, c'est aussi la crainte de Dieu si l'on a en tête le discours de l'Église par rapport au suicide?
Oui, alors là, je crois d'abord qu'il faut avoir un infini respect de la souffrance du suicidaire. Ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et il y a eu une très longue période d'erreur au Moyen-Âge où, effectivement, le pouvoir séculier et le pouvoir religieux s'accordaient pour ne pas enterrer les suicidaires. Enfin, c'était quelque chose d'affreux. Mais je crois que les réprouver, c'est très réel qu'ils sont dans l'erreur, mais tout le monde fait erreur dans sa vie de relation. Ça fait partie des erreurs de notre vie de relation. Il faut plutôt plaindre celui qui n'a pas su remettre debout sa vie de relation. Voilà plutôt comment je verrais les choses. Et nous sommes très loin maintenant de cette période de réprobation. Vous voyez, même les anglo-saxons ne disent plus de quelqu'un qu'il a commis le suicide, comme il était traditionnel de le faire il y a encore 50 ans. Mais je crois qu'il n'y a pas d'appétence dans le clergé pour le sujet, à ma connaissance. Peut-être qu'il se croit devoir être embarrassé, parce qu'autrefois il y avait une réprobation sur les suicides, mais il me semble que, ça, j'ai pas à dicter aux évêques ce qu'ils doivent mettre au programme des séminaires, vous pensez bien, mais enfin, il me semble qu'il y aurait à grappiller au sujet du suicide beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que le clergé est toujours informé de la nature suicidaire d'un décès, hein. Il peut arriver encore qu'on le dissimule au clergé, justement parce qu'on craint la réprobation. Donc, il peut y avoir simple ignorance de la part du clergé. Mais s'il n'y a pas d'ignorance, ils peuvent être très embarrassés pour, en effet, faire face à l'intolérable deuil de la personne survivante, comme disent les Américains, et notamment cette hantise de chercher le pourquoi, qui est une démarche vaine.
Est-ce qu'aujourd'hui, on est équipé pour la prévention ?
Alors, c'est un gigantesque sujet, la prévention du suicide. Je dois tout de suite vous dire que, enfin, ou à la Journée nationale de prévention du suicide, un excellent, d'ailleurs, membre dirigeant de l'association a dit, mais dites donc, nous pourrions quand même nous occuper de vérifier si nous faisons de la prévention du suicide et comment nous la faisons, parce que jusqu'à présent, personne ne s'est soucié de l'évaluation. J'ai soutenu quelque chose qui paraît très paradoxal, c'est que le plus gros de la prévention est fait par les proches. Et c'est contraire à l'expérience des auditeurs des journées de prévention du suicide, parce que les gens qui sont dans la salle, vous faites pas d'illusions, on peut dire que les deux tiers sont des personnes en deuil, c'est-à-dire qui ont eu le terrible échec de ne pas avoir su empêcher le suicide de leur enfant. Alors que c'est très réel, l'échec des proches, mais il y a aussi la prévention, et ce qui me un des éléments que j'ai dit dans les journées, c'est qu'il y a eu une personne sur six dans sa vie qui a eu un projet de suicide. Donc presque tous ont renoncé à ce projet de suicide. Et j'ai proposé aux journées qu'on fasse enfin une enquête, ce qui n'a jamais été fait, pour aller demander soit dans la rue, soit au téléphone, demander à la suite de quelles interactions, de quelles rencontres, de quels contacts avec un acteur du champ social ou de réflexion par vous-même, et que vous l'avez faite peut-être tout seul, votre prévention du suicide. Mais pour l'instant, je dois vous dire que nous ne savons pas qui fait la prévention du suicide et comment on l'a fait.
Cela rejoint votre idée des raisons de vivre.
En effet, c'est parce que si les proches font la prévention du suicide, c'est en plein dans « il y a au moins quelqu'un qui tient à moi et j'aime au moins quelqu'un » ou encore « ça ferait du mal à quelqu'un ». Donc, c'est un énorme problème parce que les psychiatres, à juste titre, revendiquent les tentatives de suicide et les suicidaires, et on les comprend tout à fait parce que c'est le sommet de l'art du psychiatre. La prévention du suicide. Il n'y a rien de plus difficile, de plus important pour un psychiatre que la prévention du suicide. Mais les rares psychiatres qui ont examiné de près leurs résultats sont très déçus par leurs résultats. Donc il y a à s'occuper réellement de voir ce, non pas d'écarter les psychiatres, dès qu'il y a quelqu'un qui a des idées de suicide, il faut par mille chemins le mettre en présence du professionnel compétent et qu'il arrive vivant chez le psychiatre. Mais il y a aussi le rôle des autres acteurs du champ social, des lignes d'écoute téléphonique. Et les lignes d'écoute téléphonique, il ne faut pas oublier que la première a été faite par un pasteur britannique. Ça a été les Samaritans. C'est magnifique ce mot de Samaritans. Et en France, c'est SOS Amitié qui reprend exactement les principes des Samaritans, c'est-à-dire qu'il fait de l'écoute 24 heures sur 24. Ils ont 600 000 appels téléphoniques par an à SOS Amitié.
Ça serait à dire que la première inspiration d'aide réelle, d'écoute donc aux suicidaires, venait d'une inspiration chrétienne ?
Ah bah tout à fait. Et le nom de Samaritans est explicite.
Merci au professeur François Besançon. De lui, vous pouvez lire « Drogue, alcool, en parler en famille » chez Interédition et consulter son site internet www.parlersante.fr pour mieux comprendre la prévention active aussi face au suicide.